le magazine des Nations Unies.
Nous sommes témoins de la souffrance humaine dans l'une des plus grandes et tragiques crises humanitaires du monde. Propos du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires à l'issue de sa mission de 48 heures en RDC. Pour M. Marc Lowcock, il faut agir vite et ensemble pour sauver quelques 13 millions de Congolais et Congolaises de cette tragédie humanitaire. Le patron de l'humanitaire aux Nations Unies annonce pour ce faire la tenue d'une conférence de haut niveau. Et puis, le monde célèbre les droits de consommateurs le 15 mars. Cette année, le thème a été « Rendre les marchés du numérique plus équitables », lequel a fait l'objet à Kinshasa d'une conférence débat organisée par l'Organisation des défenses de consommateurs, ODC, une ONG congolaise. En plus du reportage sur cette conférence, vous suivrez également l'entretien que le président de cette ONG, Monsieur Derek Chibangu, a accordé à MAG UN. Enfin, le Royaume-Uni disponibilise 9,2 millions de dollars américains pour appuyer le processus électoral en RDC et 11 autres millions de dollars déjà affectés dans le cadre du soutien technique et logistique de la MONUSCO à ce processus. Annonce faite cette semaine par l'ambassadeur de ce pays après une rencontre avec le président de la CENI. L'ambassadeur John Merton est notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Nous le disions, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence, Monsieur Marc Lowcock, a bouclé mardi dernier son séjour de 48 heures en RDC. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est importante. Il faut agir vite et ensemble pour venir en aide à quelques 13 millions de Congolais dans le besoin, a-t-il déclaré au cours de la conférence, peu avant de quitter Jean-Pierre Lalicoco pour le reportage.
Nous sommes témoins du pire de la souffrance humaine dans une des plus grandes et tragiques crises humanitaires du monde.
Ce sont là les propos du secrétaire général adjoint Marc Lowcock devant la presse mardi à l'aéroport international d'Ndjili, après sa visite à Kalemie dans le Tanganyika. Le chef de l'humanitaire aux Nations Unies n'a pas caché son exaspération devant les conditions de vie horribles des personnes victimes de l'insécurité due au conflit. Il faut, selon lui, agir vite et ensemble pour venir en aide à quelques 13 millions de Congolais dans le besoin. Une façon de parer au plus pressé, c'est l'annonce faite par M. Lowcock dans la foulée d'une conférence de haut niveau en avril prochain à Genève. Objectif, faire un plaidoyer afin de mobiliser 1,7 milliard de dollars pour juguler la crise humanitaire en RDC. Quel est alors l'engagement des autorités congolaises dans ces combats, M. Lowcock?
Le gouvernement a déclaré qu'il allouerait plus d'argent à l'aide humanitaire. Ils ont accepté de réviser la procédure de délivrance de visa pour les travailleurs humanitaires.
Pour la ministre du Commerce extérieur des Pays-Bas, Mme Sigrid Kaag, qui a fait partie de la délégation, il faut agir maintenant.
Il faut agir maintenant pour prévenir le pire qui ne devrait pas se passer.
Après la conférence de presse, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et sa délégation se sont aussitôt envolés pour New York.
Et puis les droits de consommateurs étaient à l'honneur jeudi 15 mars, un événement institué en 1983 et c'est pour la première fois que la journée a été célébrée en République démocratique du Congo grâce à une conférence débat organisée par l'ONG ODC, Organisation de défense des consommateurs. La problématique a porté sur les droits des consommateurs du numérique en RDC. Honoré Missenga Kalala pour les détails.
Deux experts dans le domaine sont au centre de cette conférence débat. Il s'agit de M. Kodjo Ndukuma, avocat à la Cour de Kinshasa Matete et du directeur des cabinets au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications. Ils sont introduits par le président de l'ODC qui explique à l'assistance l'enjeu de l'événement et l'intérêt du thème choisi.
Très chers consommateurs, ce moment est pour vous de faire la promotion de vos droits en tant que consommateur. Pour que ces droits soient respectés et protégés par le gouvernement. Ces droits doivent suivre l'évolution du monde. Et le numérique, en ce jour, c'est un outil, si on ne le suit pas, au demeurant, au risque même de rester analphabète.
Premier à prendre la parole, l'avocat Kodjo dit vouloir atteindre un objectif pédagogique de sensibilisation aux droits des consommateurs ainsi qu'aux risques que comporte le numérique. Au passage, il met en évidence le poids et l'impact économique des consommateurs du numérique en République démocratique du Congo.
En RDC, dans les derniers chiffres du trimestre 2017, le nombre d'abonnements téléphoniques que nous avons, c'est 35 366 547. Les souscriptions à Internet sont de l'ordre de 13 198 592 personnes. Et nous avons 9 032 032 personnes qui utilisent soit M-Pesa, M-Falanga et consorts. Donc au dernier trimestre 2017, cette masse d'abonnés avait permis aux sociétés de télécommunications d'avoir 304 587 654 dollars de revenus.
En dépit de son importance, les droits du consommateur numérique en RDC sont loin d'être protégés, estime M. Kodjo.
On a assisté ici au Congo à une hausse du prix de l'Internet. On est passé d'une hausse de jusqu'à 500%. On n'a consulté aucun consommateur. Il nous arrive aujourd'hui de vivre, même pour des questions sécuritaires, l'interruption totale de l'Internet, ça brise des ménages. On n'a jamais consulté les consommateurs. Et puis, il y a toute une série d'incidents que nous constatons, les pertes des unités, la mauvaise qualité des services, et l'État qui est censé, à travers l'autorité des régulations des postes de télécommunication, d'assurer la protection des consommateurs, n'est pas toujours aussi présente pour nous, alors qu'ailleurs, il y a des services qui appuient le travail qui est fait par les associations de consommateurs.
Le directeur de cabinet du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications parle pour sa part de deux conditions pour rendre le numérique équitable en RDC.
Offrir le réseau, accomplir le service universel, l'amener dans tout le coin de la République, permettre aux Congolais de disposer des terminaux dignes de ce nom pour faire du numérique. Alors le marché deviendra équitable. Mais ce n'est pas encore équitable, parce que la poche doit devoir jouer pour que le marché soit équitable. Regardez, sous d'autres cieux, l'Internet est devenu quasiment gratuit. Chez nous, l'Internet, il faut se gratter la tête pour acheter un giga.
Les deux orateurs du jour appellent donc les associations de consommateurs de jouer le rôle de groupe de pression pour que les choses changent dans le sens de la promotion des droits des consommateurs en République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, l'OMS a ouvert lundi dernier à Kinshasa un atelier d'évaluation conjointe externe de 5 jours du règlement sanitaire international. Objectif de l'atelier, examiner les progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ce règlement, mais aussi renforcer les capacités du pays en vue de prévenir des endémies et autres maladies émergentes. Des détails avec Jean-Pierre Lallé, Ikoko.
À l'ouverture des travaux, les représentants résidents de l'OMS en RDC, le docteur Alarangar Yakoudé, a fait savoir que l'OMS dispose d'un puissant instrument de coopération qui permet de faire face à tout événement qui constitue une menace de santé pour la population. Cet instrument, c'est le règlement sanitaire international, un arsenal de mesures de sécurité sanitaire mis en place en 2005 et recommandé par l'OMS aux États dans le cadre de la prévention et de la riposte aux épidémies. Répondant aux exigences de ce texte international, le ministre de la Santé a indiqué que plusieurs initiatives étaient en cours pour mettre en œuvre ce règlement sanitaire international. Le docteur Ilunga a cité par exemple la dynamique lancée pour obtenir la création d'une agence congolaise de prévention et de contrôle des maladies. Il donne ici l'objectif attendu de cette évaluation.
L'évaluation externe conjointe qui commence ce jour s'inscrit dans le cadre d'un processus volontaire et multisectoriel qui va nous permettre d'élaborer un plan stratégique de renforcement des capacités du pays pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international.
Un plan très attendu pour servir de gouvernail dans la politique de prévention, voire d'éradication des maladies épidémiques et émergentes.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme annoncé dans le sommaire, en marge de la célébration de la Journée internationale de consommateurs, le magazine des Nations Unies a approché le président de l'Organisation de défense des consommateurs, ODC, qui est une ONG de droit congolais. Il s'agit de M. Derek Tshibangu, qui a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Maître Derek Tshibangu, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi célébrer la Journée des consommateurs ?
Pourquoi célébrer? Puisque le consommateur d'abord nous inclut tous. Aujourd'hui, ça doit être une fierté pour le consommateur de se réunir afin de faire la promotion de ses droits, de dénoncer les abus du marché économique qui mine ses droits. Voilà pourquoi nous fêtons et nous organisons cette journée. Je voudrais souligner que c'est pour la première fois en RD Congo que telle journée est célébrée et que ça puisse être pareil pour le futur.
Vous parlez des droits des consommateurs. Quels sont ces droits? Vous pouvez nous en citer quelques-uns.
Il y a le premier droit, c'est le droit à l'accès de besoins de base. C'est-à-dire ici, le consommateur doit avoir accès facile aux besoins élémentaires, notamment le logement, la nourriture, l'eau, l'électricité et autres qui sont élémentaires pour la vie humaine. Le deuxième droit, c'est le droit à la sécurité. Ces droits voudraient que la conception d'un bien, produit ou service doit être faite dans son processus de sorte que cela ne menace pas la santé du consommateur. Et le troisième droit, c'est le droit à être informé. Le consommateur doit être informé sur le bien ou service de consommation. Lorsqu'il se trouve sur un bien, il doit savoir d'abord quel est le contenu, la provenance, la date de péremption, ce sont les éléments. Lorsque le consommateur se trouve sur un bien dont l'emballage et les mentions sont dans une langue étrangère, un tel bien est impropre à la consommation. Il y a le droit de choisir. Ça veut dire que le consommateur, lorsqu'il se trouve devant de biens compétitifs, il doit être capable de faire son choix. Vous avez le droit d'être entendu, c'est-à-dire dans la conception de la politique gouvernementale, on doit tenir compte des intérêts légitimes des Congolais. Vous avez aussi le droit à l'éducation. Le consommateur doit être formé pour qu'il ait les compétences et les capacités de faire un choix juste. Vous avez le droit à la réparation. Ici, lorsque la consommation n'a pas été satisfaisante, ou lorsque cette consommation a porté préjudice aux consommateurs, il faudrait que ces préjudices soient réparés. Et enfin, vous avez le droit à un environnement sain. Donc, le consommateur doit vivre dans un environnement qui protège sa vie présente et future.
C'est sous quel thème cette journée a été placée?
La journée a été placée sous le thème « Rendre le marché du numérique plus équitable ».
Pourquoi le numérique? Qu'est-ce qui a justifié ce choix?
Vous savez qu'aujourd'hui, le numérique devient un outil moderne à travers lequel beaucoup de marchés qui font de vous et moi consommateurs se passent à travers le téléphone. Un exemple, à travers votre téléphone, vous achetez un billet. À travers vos téléphones, vous ferez n'importe quelle transaction. Et on voudrait ici informer et former le consommateur sur l'accès, la sécurité des arnaques, des escroqueries qui se passent sur ces numériques. C'est pourquoi on voudrait que ces marchés-là, avec les études, avec des conférences, avec des idées qui doivent venir de partout, on puisse rendre ce marché équitable, sécurisant pour le consommateur.
Vous avez énuméré un certain nombre de droits des consommateurs. Votre organisation, l'Organisation des droits des consommateurs, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre pour faire respecter ces droits et pour informer ces consommateurs?
Les actions que nous avons déjà entreprises sont nombreuses. Nous ne pouvons ici évoquer l'action par rapport au passeport semi-biométrique, par rapport aux coupures d'Internet, par rapport au scandale de lait infantile produit Lactalis. Il y a des opérations, campagnes sur la consommation citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes sur la conférence des célébrations de la Journée internationale des droits des consommateurs. Il y a des perspectives en cours que nous envisageons, dont une campagne sur le droit proprement dit des consommateurs congolais, que nous dénommons déjà « Connaître vos droits des consommateurs ». Et aussi, pour renforcer cela, nous sommes en train de chercher à constituer un lobbying afin de plaidoyer sur la promulgation de la loi portant protection des consommateurs et aussi chercher à ce qu'on puisse insérer dans le programme de l'éducation au niveau primaire la notion de la consommation citoyenne, donc l'éducation à la consommation pour nos enfants. Quand nous évoquons ici le numérique, vous verrez déjà que la plupart de nos jeunes, c'est devenu un acte avec lequel ils s'amusent, ils jouent, ils communiquent même. Faudra-t-il déjà penser à ce qu'ils soient formés et informés par rapport à ça? C'est pourquoi nous cherchons à constituer un lobby à ce qu'on puisse insérer l'éducation à la consommation dans le programme de l'enseignement primaire.
Maître Derek Chibang, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voici un an déjà depuis le meurtre de deux membres du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, Zaïda Catalan et Michael Sharp, tués pendant qu'ils effectuaient leur travail dans la région du Kasaï. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, et l'ensemble du personnel de l'ONU en RDC saluent leur mémoire ainsi que celle de leurs accompagnateurs congolais. Cependant, un an après leur disparition, quelques zones d'ombre continuent à planer sur les circonstances ainsi que sur les auteurs de ce double crime. La MONUSCO affirme pour sa part continuer à œuvrer pour que toute la lumière soit faite sur ces crimes odieux et souhaite que la justice soit rendue pour ces experts et leurs accompagnateurs congolais. Une mission composée des membres de la section affaires civiles de la MONUSCO, du DDR, de l'information publique, ainsi qu'un partenaire local représentant la commission de CESEN Justice et Paix, est sur terrain à Kalemie depuis mercredi dernier. Objectif, d'abord distribuer des matériels de sensibilisation pour les comités locaux de paix, Baraza. Ensuite, lancer des activités de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes concernant le processus électoral et la réduction de la violence dans le cadre d'un partenariat avec la société civile. Enfin, l'UNICEF et ses partenaires apportent une réponse d'urgence aux populations déplacées de l'Ituri à la suite des violences qui frappent cette province. L'UNICEF, qui se dit préoccupée par cette situation, des milliers d'enfants ont fui à cause des violences. À ce sujet, l'agence onusienne a activé à partir de son bureau de Bounia son programme de réponse rapide aux mouvements de population. Avec ses partenaires et en coordination avec les autres acteurs humanitaires, elle a assisté 3800 ménages, soit 17 000 personnes, en articles ménagers essentiels composé de savon, produits de purification d'eau, kits de cuisine, pagne et couverture à Bounia et ses environs.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et l'invité du MAG-UN de ce dimanche est l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC. Son pays vient de disponibiliser 9,2 millions de dollars pour l'appui du processus électoral en RDC. Ce soutien n'est assorti d'aucune condition. Le financement sera géré par les PNUD à travers un fonds de soutien aux élections. L'ambassadeur John Merton s'entretient ici avec Jean-Pierre Lali Coco.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être reçu par le président de la CENI. Quel a été l'objet de votre visite?
Nous avons parlé avec le chef de CENI, Monsieur Kone Nanga, en ce qui concerne notre soutien pour le processus politique ici au Congo. Et je voudrais ici annoncer que le gouvernement britannique a disponibilisé environ 9,2 millions de dollars pour appuyer la CENI à travers le Fonds commun des partenaires internationaux appelé PASEC. Le 9,2 millions de dollars, c'est un élément d'un programme plus large qui soutient le processus électoral, le processus politique ici dans le Congo et crée l'espace pour la démocratie. Et ce programme plus large, c'est un montant de 26,3 millions de dollars que nous contribuons aussi à l'enveloppe qui soutient le processus démocratique, le processus électoral ici dans le Congo. Aussi, nous contribuerons à l'enveloppe de 110 millions de dollars de la MONUSCO pour l'appui logistique aux élections et aussi à l'enveloppe de l'Union européenne pour les élections aussi.
L'ambassadeur de l'Union européenne, M. Bartho Ouvry, a récemment émis des réserves sur la fiabilité, voire la crédibilité de la machine à voter. Quelle est l'appréciation de la Grande-Bretagne vis-à-vis de cette machine à voter?
À propos des machines à voter, nous sommes au courant des préoccupations majeures autour de ces machines. Aussi, nous encourageons la CENI à continuer le dialogue avec toutes les parties prenantes afin d'apporter les réponses à ces préoccupations.
En vous entendre parler, donc, vous êtes du même avis que M. Aubry?
J'ai expliqué mon position à propos de la machine à voter. Nous sommes au courant des préoccupations autour de ces machines et aussi nous encourageons la CENI de continuer le dialogue avec toutes les parties prenantes afin d'apporter les réponses à ces préoccupations.
Oui, restons toujours dans le processus électoral en RDC. Qu'est-ce que, selon vous, permet de croire à l'organisation effective des élections cette année en RDC? Est-ce que, selon vous, oui, vous fait croire que les élections seront bien organisées en RDC? Est-ce que, selon vous, il n'y a pas des entraves qui peuvent empêcher la tenue des élections en RDC?
Les élections cette année sont une grande opportunité pour ce pays qui n'a jamais vu une alternance paisible de pouvoir. C'est une opportunité énorme pour ce pays d'organiser des élections pour voir une alternance de pouvoir paisible entre l'un président et son successeur. Et il faut que toutes les parties prenantes, l'opposition, le gouvernement, la CENI et aussi la communauté internationale travaillent ensemble afin que les élections soient libres, crédibles, inclusive et respectée par toutes les populations.
Oui, dernière question, monsieur l'ambassadeur. Nous assistons ces derniers temps à des conclaves, des réunions des partis politiques qui veulent se mobiliser et se réunir autour d'un idéal commun pour aller aux élections, notamment au niveau de l'opposition. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus par rapport au processus électoral en cours?
Nous ne soutenons pas un parti ou un autre, mais nous soutenons un processus électoral inclusif. Alors, le fait que la plupart des partis de l'opposition sont en train de participer dans le processus électoral, c'est pour nous une très bonne chose. Et comme nous avons dit plusieurs fois, nous soutenons la mise en œuvre, l'application de tout l'accord de Saint-Sylvestre et les mesures de décrispation envisagées dans ce accord afin que tous les partis politiques aient l'espace de s'organiser et se présenter au scrutin la fin d'année.
Monsieur John Martin, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Situation sécurité Radio-Go, nous sommes dans la province de l'Itourie. L'appui logistique au FRDC de la MONUSCO disponible. Le représentant spécial adjoint en RDC pour les opérations et l'état de droit, David Gracely, l'a confirmé en début de semaine à l'issue de son entretien à Bounia avec le ministre de l'Intérieur, Henri Mova. Maguen revient donc sur les propos du numéro 2 de la MONUSCO au micro de Sadiki Aboubakar.
Nous sommes venus ici pour discuter avec son Excellence de la situation actuelle dans l'Itourie, surtout dans le territoire de Djougou. On a eu un bon échange avec lui et son équipe. On a discuté le rôle que la MONUSCO peut aussi jouer pour accompagner le gouvernement dans ses efforts. Aussi donner notre accord pour donner un appui logistique pour ses efforts.
Et c'est quoi exactement ce rôle que la MONUSCO devra jouer?
Déjà, nous avons déployé notre force sur le terrain et on va rester là-bas pour le durée nécessaire. C'est aussi notre réserve qui a été basée à Kisangani est venue ici pour déployer. Ça va faciliter l'accès sur le terrain pour certains endroits. Et on va continuer avec nos efforts de la résolution de conflits, une équipe des affaires civiles qui est sur place. Donc ce sont le genre de choses qu'on peut envisager dans cet effort.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je vous invite à suivre cette question sur la problématique de la crise humanitaire en RDC ainsi que la réponse d'Yvon Edoumou du bureau OCHA Kinshasa.
Monsieur Yvon Edoumou, vous parlez de la crise humanitaire en RDC. Vous citez même cette crise parmi les plus grandes crises humanitaires. Je suis quand même un peu dérangé du fait que c'est comme si la grandeur du problème, on ne la ressent vraiment que lorsqu'on vient ici à la conférence des presse de la MONUSCO. Mais est-ce qu'en chiffres, nous pouvons vraiment savoir en quoi est-ce que la situation est vraiment désastreuse?
En quoi est-ce que la crise congolaise est désastreuse? L'année dernière, nous avions à peu près 5 millions de personnes qui étaient dans le besoin. Cette année, nous sommes à 10 millions. L'année dernière, nous avions lancé un appel pour à peu près 812 millions de dollars américains. Nous avons dû doubler ce montant pour lancer un appel cette année de 1,7 milliard de dollars américains. Le montant est tellement grand que cela nous pousse à organiser cette conférence de donateurs le 13 avril prochain à Genève. Quand vous prenez tous les indicateurs et que vous les comparez 2018 à 2017 ou 2018 à 2016, tous les chiffres ont flambé, que ce soit en termes de maladies, que ce soit en termes de personnes déplacées. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC est classée parmi des crises majeures du monde. Il y a quelques mois, nous avons déclaré ce qu'on appelle le niveau L3 pour la RDC. Ce n'est pas quelque chose de très flatteur, ça veut dire qu'on est dans une situation critique. Juste pour mettre un peu en relief, le Yémen et la Syrie sont les deux autres pays qui sont considérés comme niveau L3. Donc ça vous donne un peu ce à quoi nous avons affaire en RDC. Et je pense que c'est peut-être un peu dommage que c'est seulement quand vous venez à la conférence que vous avez le son de ce qui se passe. Il faudrait peut-être qu'on les envoie sur le terrain de ces jours pour que vous puissiez voir les camps de déplacés dans le Tanganyika, en Ituri, le sud Kivu, le nord Kivu, ben, toute la région est du pays, c'est pas top.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je réponds au nom de Niampala Batuli Dirougé, c'est mon prénom. Je suis effectivement marié et père de plusieurs enfants, détenteur d'un diplôme au niveau secondaire en pédagogie générale, bien entendu, et je détiens également un diplôme universitaire en pédagogie appliquée. À cela, il faut ajouter plusieurs autres brevets, certificats, diplômes, notamment dans le journalisme en zone de conflit, journalisme narratif, en développement durable, en programme sur le VIH-SIDA, etc. À l'heure actuelle, je continue aussi, il faut le dire, à étudier dans une université africaine. Alors, pour le moment, je suis journaliste, reporter, producteur à la radio Capi Congo Central, basée précisément dans la ville de Matadi. Mon rôle est de recueillir des sujets, les discuter, en faire pratiquement un produit fini, c'est-à-dire recouper, traiter, monter et l'envoi pour diffusion à la rédaction centrale à Kinshasa. Dans mes tâches quotidiennes, la première des choses que je fais dès que j'arrive au bureau, c'est de choisir, de voir les sujets du jour, d'actualité, recueillir suffisamment d'éléments auprès des sources et autres contacts. Je fais également souvent le monitoring des différentes chaînes de télé et de radio de la ville de Matadi, et j'appelle aussi certains confrères qui me contactent également s'il y a des informations à nous filer pour justement les traiter et les diffuser. Et je les présente donc à la conférence de rédaction chaque matin à 8h30. Aussitôt les orientations et les échanges avec la rédaction centrale de Kinshasa terminée, je fais donc ce que je viens de dire tantôt, j'envoie l'élément fini pour diffusion à Kinshasa. Je réalise également des traductions en Lingala qui viennent d'autres provinces, et il m'arrive aussi de réaliser des dossiers et magazines à d'autres émissions de Radio Capital que Dialogue entre Congolais ou les magazines des jeunes. Nous descendons chaque fois sur le terrain afin de réaliser de reportages, et etc. Avant Radio Capi, j'ai plus œuvré dans l'enseignement au niveau secondaire pendant plus de 3 ans. S'en est suivi mon parcours dans une ONG de la Banque mondiale de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants soldats. Nous sommes là dans le territoire de mandat, et juste après cette ONG, j'ai fait mon premier test en 2005 à Radio Capi à Matadi. Nous étions 35 candidats, on a été sélectionnés à 6, et après l'interview, devant, je me rappelle, Michel Biolay, un des responsables de la Radio Capi Fondation Hirondelle, il y avait également Étienne Rogéry, l'un des mes rédacteurs en chef. À cela, il faut ajouter Jean-Claude Toumba Kamanga. Ils m'ont tous formé, je dois le dire, et sur les 6, 2 personnes ont réussi pratiquement, et j'étais parmi les deux. Et voilà en résumé la petite histoire en ce qui concerne mon embauche dans Radio Capi et pratiquement mon parcours aujourd'hui fonctionnaire des Nations Unies en RDC, bien entendu. Alors, pendant mes temps libres, je lis beaucoup. J'ai fait des recherches sur l'Égypte ancienne à tous les niveaux, spirituels et sur les connaissances léguées par nos ancêtres.
Pour cela, vous permettrez de citer l'un de mes maîtres, c'est Cheikh Anta Diop. Outre ses recherches, j'aime le football, je joue presque chaque dimanche. J'écoute trop de la musique, souvent quand je travaille, et ça ne me gêne jamais. En ce qui concerne la nourriture, je m'adapte à tout. Mais quand il s'agit de faire effectivement un choix, j'aime manger le liboké de Mposé, une forme de chenille blanche et jaune avec poisson frais, accompagné de touka, c'est une chikwangue traditionnelle. Et j'aime trop le limbono, une forme de feuille de manioc préparée autrement. Alors, pour terminer, par rapport à mes projets d'avenir, je vois ma vie après Radio Okapi dans trois domaines. Le journalisme comme patron d'une grande agence de presse. Je compte également être un grand diplomate international. Je me vois grand acteur de résolution des conflits et aussi grand agriculteur. Enfin, je dois également enseigner les connaissances africaines. Voilà ce que je ferai après ce merveilleux boulot que je suis en train de faire aujourd'hui à la Radio Okapi. J'aime toujours terminer par cette maxime africaine qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire des chasseurs. » Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Et voilà, la semaine qui commence sera riche en journées internationales et mondiales. Notez-en quelques-unes. Le 20 mars, par exemple, c'est la journée internationale de la francophonie. Le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. Et puis le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, à la mise en onde Bob Landou, au reportage Honoré Missinga, à la coordination et réalisation Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Merci à vous et à très bientôt sur Radio Okapi. Ciao.